Bonjour à toutes et tous. Comment allez-vous? Très bien. Comment se sont passées la rentrée et la reprise? C'est dur. Oui. Et pour les gens qui sont retraités ou toujours en vacances, oui. Le monde continue de tourner, la vie continue. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des figues. Oui, je sais que j'ai déjà évoqué le sujet des figues. Pardon? Oui. Bien vu. En fait, j'ai pas trouvé une diapo avec les figues. C'est le sujet, c'est pas juste les figues, mais c'est les fruits. Et j'utilise les figues, les citrons, comme exemple. Qui a un téléphone mobile portable? Très bien. Ouvrez votre application Bible à Marc 11, verset 12. Et si tu as une vraie Bible, c'est bien aussi. C'est dans le même endroit. Marc 11, verset 12, jusqu'à 25. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y a trouvé quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues, des citrons, etc. Prenez alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Il arrive à Jérusalem et Jésus entre dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laisse personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseigne et dit, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchent les moyens de le faire périr, car ils le craignent, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappelle ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier, le citronnier que tu as maudit a séché. » Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Il existe de nombreuses façons d'interpréter ce passage. Et aujourd'hui, je souhaite me concentrer sur celle des figuiers, ainsi que sur le contexte lié aux figuiers et à leurs fruits. La première point facile à retenir de ce texte, que la plante porte des feuilles. Le Christ avait faim et il a aperçu un arbre au loin. Celui-ci était couvert de feuilles et il y avait des fortes chances qu'il porte des fruits. Facile, n'est-ce pas? Non, ça c'est faux. Les figues n'étaient pas une culture inconnue ou rare en Israël. Le figuier, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a probablement été domestiqué il y a environ 6500 ans et était couramment cultivé dans toute la région Méditerranée. Il était bien connu pour ses fruits sucrés et nutritifs. On l'appelait parfois la nourriture des pauvres, comme il était largement cultivé et facilement accessible. Les personnes démunies en consomment les grandes quantités chaque année dans le cadre de leur alimentation principale. Mais quel rapport cela a-t-il avec Jésus? Comme ils connaissent bien les figuiers, ils devaient savoir à quelle saison ils portent des fruits. En effet, ils ne fleurissent généralement pas parce que le fruit et aussi la fleur. Alors, s'ils connaissent si bien les figues, pourquoi s'est-il approché de cet arbre en sachant qu'il n'y aurait aucun fruit à offrir? Et cela, ma famille, est la véritable question. Le Christ s'approche de l'arbre avec une attente pour se rendre compte qu'il ne répondait pas à ses espoirs. J'ai une autre question à vous poser qui pourrait nous aider à comprendre un peu. Qui peut me dire qui se passait la veille de cet événement? Quelqu'un? C'était l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le roi des Juifs est entré à Jérusalem. Quel spectacle! La foule bondait, les rues en chantant « Alléluia, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit la reine à venir, la reine de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Et les gens jettent le manteau et les vêtements sur la route pour que le Christ puisse marcher dessus. Le lendemain, le Christ semble de mauvaise humeur. Il maudit une figuier parce qu'il n'y a pas de fruits, alors même qu'il savait que ce n'était pas la bonne saison. Puis il chasse tout le monde du temple, renverse les tables et fait tout un spectacle. Ensuite, il voit que le figuier maudit est mort. Mes amis, tout cela est lié. L'entrée triomphale à Jérusalem, les chants, les acclamations, c'est la même chose que le figuier couvert des feuilles. Ah oui, c'est la même chose. L'absence de fruits et le comportement des gens dans le temple, c'est la même chose. Avant que vous ne pensiez que je devienne fou, sachez que le Christ ne considérait pas ces événements isolément. Il cherche aussi à enseigner à ses disciples et les gens autour de lui. L'entrée triomphale à Jérusalem étaient porteuses de tentes de promesses pour le Christ. Le voilà, le roi de Juifs, entrant à Jérusalem, et les gens l'honoraient, et louaient et l'adoraient. À ce stade, le fait qu'il ne fût pas à cheval ne semblait pas vraiment avoir d'importance. Cette entrée était si pleine de promesses qu'elle suffisait à retenir l'attention des gens. Ce n'est pas une petite chose dans un quartier, dans une petite rue, etc. C'était énorme. Il était vu par beaucoup de personnes. Ce n'était pas caché, isolé. Les gens crient depuis les toits. Le figuier se dresse là, couvert des feuilles, grande, vigoureux et pleine de promesses de fruits. Le Christ revient à Jérusalem, entre dans le temple et constate à quel point celui-ci est profané, transformé en repère de voleurs. Le même Jean, peut-être même certain de ceux, la même qui avait acclamé et célébré son entrée triomphale à Jérusalem, mais au défaut, la même population. Les Israélites, les habitants de Jérusalem, qui étaient dans le temple aussi. Des Juifs vivant à Jérusalem, élèves dans la même tradition de l'Ancien Testament et les mêmes enseignements, la même culture, les mêmes croyances, etc. Sept ans faisait la fête. Ce n'était pas la première fois que le Christ entrait dans le temple. Alors pourquoi était-ce la première fois qu'il s'agisse de la sorte? Pourquoi ce foi? Cela nous ramène à l'arbre. Oui, cet citronnier, cet figuier. Bien qu'il semblait à première vue fructueux, il se révèle décevant. On pourrait en dire autant du peuple de Jérusalem. Il semblait fécond, mais il présente des graves lacunes. Maudire le figuier était la manière dont Jésus exprime que toute la nation était devenue spirituellement stérile devant le Seigneur. Elle avait été la forme de la religion, mais pas la réalité. Elle savait prononcer les bonnes paroles, mais son cœur était loin de Dieu. Le figuier fut maudit, non parce qu'il était stérile, mais parce qu'il était faux. Ce que le Christ montrait, c'est qu'on peut connaître la Bible de bout en bout. On cite les Écritures, on sait reconnaître les signes, les miracles, etc. Lorsqu'ils se produisent, on va à l'église tous les dimanches, on participe dans les choses, on fait partie de la communauté et en apparence, on porte du fruit. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu'on est en défaut. Nous pouvons sembler capables de porter du fruit, mais nous sommes stériles. Allons voir Jean 15 à partir de verset 1. « Moi, je suis la vraie plante de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les semons en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tout ce qui en porte, il le purifie afin qu'il produise un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un semon ne saurait porter de fruits tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les semons. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera de fruits en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les semons coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse. On y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Voici un autre passage de la Bible qui, j'en suis sûr, vous connaissez très bien et sur lequel vous avez entendu prêcher aux plusieurs reprises. Nous y voyons le Christ nous appeler à porter du fruit, à produire du fruit. Nous devons être fécondes dans tout ce que nous faisons. Et comment devons-nous porter ce fruit? Grâce à une relation intime avec le Christ. Nous devons puiser en lui notre nourriture spirituelle et notre force, conséquence de notre greffage en Christ. Tout comme les semons puissent le nourriture dans la vigne. Le fruit qui en découle est la manifestation extérieure de cette relation intime avec le Christ, qui nous permet de développer des traits de caractère à l'image de Christ, grâce à notre croissance et notre maturité spirituelle. Ces traits de caractère sont ce que nous appelons les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Les fruits que nous produisons se manifestent également par des expressions concrètes de la foi, à travers des actes de service, du ministère et d'obéissance aux commandements de Dieu. Il nous rappelle que cela n'est possible que si nous restons greffés en lui. C'est-à-dire, si nous entretenons cette relation étroite et intime avec lui, Christ nous donne la force de porter beaucoup de fruits. Et en portant de fruits, nous glorifions Dieu et nous montrons non pas à nous-mêmes, mais au monde que nous sommes ses disciples. Et le fait de porter des fruits ne concerne pas seulement nous-mêmes et notre propre conscience ou notre croissance spirituelle, mais aussi les relations que nous développons. Ces relations doivent naître de l'amour. Tout comme nous aimons le Christ, nous devons nous aimer les uns les autres. Cet amour mutuel est amour sacrificiel et un service les uns envers les autres. Reflétons ce que le Christ a accompli et l'amour du Christ dans nos propres vies. Et dans cette croissance spirituelle, que devrions-nous vivre? Cette intimité nous inspire à grandir sans cesse dans la connaissance et la compréhension de Dieu afin de produire des fruits plus significatifs dans nos vies. Si nous vivons en accord avec ces principes, nous pouvons produire des fruits qui glorifient Dieu. Profitons aux autres et démontre la puissance transformatrice de la foi. Les fruits que nous portons doivent également résister l'épreuve du temps. Ils ne sont pas éphémères. Ils doivent avoir une signification durable, ayant un impact non seulement pour aujourd'hui, mais aussi demain, et après demain, et après, pour l'éternité. En tant que véritables disciples, les fruits que nous portons doivent être durables. Qu'entendons-nous vraiment par là? Vos fruits doivent avoir un impact durable. Par exemple, votre service ou l'amour sacrificiel dont vous faites preuve doit insuffler la vie aux autres afin qu'ils puissent à leur tour grandir et porter de fruits. Et ainsi de suite. Cela ne doit pas s'arrêter à vous. Avez-vous entendu parler de la notion « pay it forward » Je ne sais pas comment on dit ça en français, j'essaie de trouver, mais il y a un café où l'on peut acheter son café, mais où l'on peut aussi payer un autre café pour qu'une autre personne n'ait pas à payer le sien. Pardon? Suspendu. D'accord. OK. Ainsi, si vous n'avez pas les moyens de vous en offrir un, le café a déjà été payé et vous pouvez apprendre un. C'est formidable, mais ce que cet acte simple a pour effet, c'est d'encourager des autres personnes à donner à leur tour. Et si vous avez la chance de recevoir un café gratuit, un jour, lorsque vous aurez les moyens, vous serez plus encline à faire de même et à payer pour les autres. Si ce modèle se perpétue au fil du temps, il peut avoir un impact considérable sur la vie de nombreuses personnes. Même s'il ne s'agit que d'un café. Mais c'est le principe. Si on sème, si on fait quelque chose, on a besoin d'y prendre le temps. Il est durable. Il reste pour toujours. Ce n'est pas juste maintenant. Vos fruits ont-ils un impact au fil du temps? Dans l'une de mes anciennes églises en Afrique du Sud, une de l'ancienne avait l'habitude de dire « Quand quelqu'un regarde par-dessus votre épaule, vers votre passé, quel fruit voit-il? Que recèle votre histoire? Vos fruits sont-ils toujours là ou ont-ils disparu? Et si je vous posais la même question, que verriez-vous? On passe maintenant à Luc, chapitre 6, verset 43. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas des figues sur les chardons et on ne récolte pas non plus de raisins sur des ronces. L'homme qui est bon tire le bien de bons trésors de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ceux qui remplissent le cœur. Si vous êtes un arbre fruitier, vous êtes destiné de produire les fruits. Nous avons été créés par l'amour de Dieu à son image et nous devrions donc porter de fruits si nous sommes véritablement ses disciples. Imaginez que vous vous promenez dans un verger et que vous tombiez sur un arbre chargé de gros fruits mûrs et succulents. Vous pourriez tout simplement supposer que cet arbre a été très bien entendu. Pardon, entretenu. Cela se reflète en nous. Nos paroles et nos actes, tout comme les fruits de notre cœur, reflètent qui nous sommes. Un cœur qui bon produira naturellement des paroles et des actes bienveillants, compatissants et positifs, tout comme un arbre en bonne santé porte des bons fruits. Si nous sommes véritablement ses disciples et non de simples arbres stériles, alors nous pouvons nous attendre d'apporter du fruit et ce fruit sera bon. Réfléchissez à l'impact de vos paroles et de vos actes sur ceux qui vous entourent. Reflète-t-il la bonté qui est en vous? Si nous voulons être reconnus par notre gentillesse, notre générosité et notre amour, nous devons commencer par nourrir notre cœur et cultiver des pensées et des intentions positives. Notre vraie nature se révélera à travers la manière dont nous parlons et nous agissons envers les autres. Tout comme un arbre ne peut dissimuler ses fruits. Cette parabole nous invite également à mener une réflexion intérieure sur notre vie et nos actions. En méditant sur nous-mêmes, sur notre vie, notre relation avec Dieu, notre cheminement et notre vie de disciple, nous parvenons à un renouveau intérieur. Cela nous permet d'évaluer notre être intérieur, qui nous sommes, notre identité en Christ et notre expression extérieure. Nos actes et nos paroles sont l'expression directe de notre être intérieur. Nous nous distinguons par les fruits que nous portons. Notre conduite reflète donc ce qui est véritablement dans nos cœurs. Car la bouche exprime ce dont le cœur est rempli. Nos paroles sont une fenêtre sur notre cœur, dévoilant notre être intérieur. Si nous examinons nos paroles et nos actions et constatons qu'elles ne correspondent pas à ce que Dieu nous appelle à être, ou qu'elles ne reflètent pas la gloire de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Nous ne sommes pas véritablement greffés en lui. Cela devrait nous inciter à opérer des changements dans nos cœurs. Prenons l'analogie d'un jardinier assidu qui s'occupe d'un arbre. On le nourrit avec soin et attention. Tout comme la qualité des fruits reflète l'investissement consacré à l'arbre. Nos actions et nos paroles sont le reflet de la culture de notre fort intérieur. En nous, investissons dans les disciplines spirituelles et une vie vertueuse. Nous ouvrons la voie à une existence marquée par des résultats positifs et une conduite juste. À l'inverse, négliger notre vie intérieure peut conduire à des comportements néfastes et à des répercussions néfastes. Ce que souligne l'urgence de renouveau intérieur. Pour conclure aujourd'hui, je voudrais donc vous poser la question suivante. Êtes-vous comme le figuier qui ne porte pas de fruits et se contente de vivre au jour le jour dans l'illusion d'un porteur? Ou bien portez-vous des fruits? Et si vous portez des fruits, quelle est la nature de les fruits? Vos fruits apportent-ils la vie et glorifient Dieu? Ou bien apportent-ils la destruction ou la mort? Alors que l'Église entre dans cette nouvelle saison, je tiens à vous encourager à examiner votre cœur, à observer vos fruits et vous assurer que les fruits que vous portez sont des bons fruits, qui découlent de la relation intime et glorieuse que vous entretenez avec le Christ, et qu'il témoigne de votre vie de disciple et de votre marche avec Dieu. Merci.